Paul Auster, Le Livre des Illusions, traduit de l'américain par Christine Leboeuf, édition Actes Sud, 2002. Le Livre des Illusions, c'est l'histoire de David Zimmer, qui, après un drame personnel, se lance dans l'écriture d'un livre consacré à Hector Mann, un virtuose du cinéma muet, disparu depuis 1929. À partir de ce livre écrit, eh bien, Hector Mann semble réapparaître de différentes manières, à différents endroits. On évoque sa mémoire et il semblerait que David Zimmer n'en ait pas fini avec cet homme et avec ses films. Dans ce livre, le tour de force de Paul Auster, outre les substitutions d'identité, les disparitions, les fantômes et les spectres tels qu'il les développe depuis de nombreuses années dans son livre, tel qu'il les développe depuis presque toujours dans sa littérature. En plus de cela, c'est son amour du cinéma qui apparaît très fortement, et notamment dans la description qu'il fait des films que David Zimmer regarde, les films d'Hector Mann. Certains qui sont sortis de son vivant, d'autres qui semblent bien mystérieux et être beaucoup plus tardifs. Je vous en livre donc un petit extrait parce que, en lisant ce livre il y a pas mal d'années maintenant, à sa sortie, il y a presque donc 23 ans, il y a donc une bonne vingtaine d'années, eh bien, j'avais été saisi de la force des images et de la manière dont, par la description, Paul Auster nous laissait voir, réellement voir, les films. On va voir justement si l'épreuve du temps fonctionne et si je suis toujours autant saisi par ces images puissantes. Je vous livre donc un large extrait de ce livre des illusions de Paul Auster à partir de la page 56, le livre en compte presque 400. Ce joyeux mépris des conséquences prend un tour plus sombre dans le 11e film d'Hector, Mr. Nobody. Le temps commençait à lui manquer et il devait savoir qu'une fois le contrat rempli, ce serait la fin de sa carrière. Le son arrivait. C'était une réalité inévitable, une innovation qui ne pourrait qu'être fatale à tout ce qui l'avait précédé. Et l'art qu'Hector avait maîtrisé grâce à un travail si considérable cesserait d'exister. Même s'il pouvait remanier ses idées afin de les adapter aux formes nouvelles, cela ne servirait à rien. Hector parlait avec un accent espagnol prononcé et, dès l'instant où il ouvrirait la bouche sur l'écran, le public américain le rejetterait. Dans Mr. Nobody, il s'autorise une certaine amertume. L'avenir était sombre et le présent obscurci par les difficultés financières croissantes de Hunt. De mois en mois, les dégâts s'étaient étendus aux moindres aspects des activités de Kaléidoscope. Les budgets étaient réduits, les salaires impayés et les taux d'intérêt élevés sur les emprunts à court terme laissaient Hunt en manque perpétuel d'argent liquide. Il empruntait à ses distributeurs sur la foi de recettes à venir. Et quand il renia plusieurs de ses accords, les directeurs de salles commencèrent à refuser de projeter ses films. Hector créait alors le meilleur de son œuvre, mais la triste vérité, c'est que de moins en moins de gens pouvaient la voir. Mr. Nobody constitue une réaction à cette frustration grandissante. Le méchant de la farce s'appelle C. Lester Chase. Et dès lors qu'on a compris l'origine du nom bizarre et artificiel de ce personnage, il devient difficile de ne pas voir en lui la doublure métaphorique de Hunt. Hunt, en français, c'est chasse. Si on laisse tomber le second S de chasse, reste Chase. Si l'on considère en outre que Seymour peut être lu « si more », voire plus, et qu'on peut abréger Lester en « less » faisant de « c » Lester, « c » less » ou « si less », voire moins, l'évidence devient assez indiscutable. Chase est le personnage le plus malveillant de tous les films d'Hector. Il est résolu à détruire Hector et à le dépouiller de son identité. Et ce n'est pas en lui tirant une balle dans le dos ni en lui plongeant un poignard dans le cœur qu'il va réaliser son plan, mais en l'amenant par ruse à avaler une potion magique qui le rend invisible. En réalité, c'est exactement ce que Hunt a fait à la carrière cinématographique d'Hector. Il lui a donné accès à l'écran, puis il s'est arrangé pour qu'il soit pratiquement impossible de le voir. Hector ne disparaît pas dans Mr. Nobody, mais dès lors qu'il a bu la potion, plus personne ne l'aperçoit. Il est toujours là, sous nos yeux, mais les autres personnages du film sont aveugles en sa présence. Il saute sur place, agite les bras, se déshabille au coin d'une rue pleine de monde, mais nul ne le remarque. Quand il crie sous le nez des gens, on n'entend pas sa voix. C'est un spectre, en chair et en os, un homme qui n'est plus un homme. Il vit encore dans le monde, et pourtant le monde n'a plus de place pour lui. On l'a assassiné, mais personne n'a eu la courte. On l'a assassiné, mais personne n'a eu la courtoisie ni la prévenance de le tuer. On l'a simplement effacé. C'est la première et la seule fois qu'Hector se présente comme un homme riche. Dans Mr. Nobody, il a tout ce qu'il est possible de désirer. Une femme ravissante, deux jeunes enfants et une énorme maison avec personnel domestique complet. Dans la première scène, Hector prend son petit déjeuner en famille. Il y a quelques passages de slapstick éblouissants autour d'un toast beurré et d'une guêpe qui atterrit dans un pot de confiture. Mais l'intention narrative de la scène consiste à nous offrir une image du bonheur. Nous sommes mis en condition par les pertes qui vont se produire et, sans cet aperçu de la vie privée d'Hector, mariage parfait, enfant parfait, harmonie domestique sous sa forme la plus idyllique, le mauvais tour qui le menace n'aurait pas le même impact. Les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes profondément affectés par ce qui lui arrive. Il embrasse sa femme et, dès l'instant où il se détourne d'elle pour sortir de chez lui, il plonge la tête la première dans un cauchemar. Hector est le président fondateur d'une société prospère qui fabrique des boissons non alcoolisées, la Fizzy Pop Beverage Corporation. Chase est son vice-président et son conseiller, son soi-disant meilleur ami. Mais Chase a accumulé des dettes de jeu importantes et il est harcelé par des usuriers qui lui intiment l'ordre de payer sinon gare. Au moment où Hector arrive à son bureau ce matin-là et salue ses employés, Chase se trouve dans une autre pièce, en conversation avec deux gaillards à mine patibulaire. « Ne vous en faites pas, dit-il, vous aurez votre argent à la fin de la semaine. Je serai alors à la tête de la société et le fonds vaut des millions. » Ses interlocuteurs acceptent de lui accorder un délai. « Mais c'est ta dernière chance, préviennent-ils. Si tu tardes encore, tu nageras avec les poissons au fond du fleuve. » Ils partent à grands pas. Chase essuie la sueur qui lui coule sur le front et pousse un grand soupir. Ensuite, il sort une lettre du tiroir supérieur de son bureau. Il la parcourt des yeux pendant quelques instants et sa satisfaction paraît intense. Avec un méchant rictus, il la plie et la glisse dans sa poche intérieure. Des engrenages se sont manifestement mis à tourner, mais nous n'avons aucune idée de la direction où on nous entraîne. Scène suivante. Le bureau d'Hector. Entrée de Chase, porteur d'un objet qui ressemble à un gros thermos. Il demande à Hector s'il veut goûter le dernier arôme. « Comment l'appelle-t-on ? » demande Hector. « Jazz Mataz, » répond Chase. Et Hector approuve d'un hochement de tête, impressionné par la sonorité attrayante du mot. Sans soupçon, il laisse Chase lui servir un généreux échantillon de la nouvelle préparation. Au moment où il saisit le verre, Chase le regarde d'un œil allumé, avec une attention extrême, guettant l'effet du breuvage empoisonné. Plan moyen d'Hector portant le verre à ses lèvres et prenant une petite gorgée prudente. Désapprobateur, il fronce le nez, il écarquille les yeux, sa moustache s'agite. Sa tonalité est entièrement comique et pourtant, lorsque sur l'insistance de Chase, Hector porte le verre à ses lèvres pour la seconde fois, les implications sinistres du Jazz Mataz apparaissent de plus en plus. Hector avale une partie du contenu du verre, il claque des lèvres, sourit à Chase, et puis fait de la tête un signe de dénégation comme pour suggérer que l'arôme ne lui plaît guère. Ignorant la critique de son patron, Chase regarde sa montre, écarte les doigts de sa main droite et se met à décompter les secondes de 1 à 5. Hector est intrigué. Avant qu'il ait pu dire un mot, Chase arrive à la cinquième et dernière seconde et, juste comme ça, sans aucun signe avant-coureur, Hector s'écroule en avant sur son siège et heurte son bureau de la tête. On suppose que le breuvage l'a assommé, qu'il est momentanément inconscient, mais, sous le regard froid et impitoyable de Chase, Hector commence à disparaître. D'abord ses bras, qui pâlissent lentement et s'effacent de l'écran, puis son torse et enfin sa tête. Morceau par morceau, son corps entier finit par s'anéantir. Chase sort de la pièce et ferme la porte derrière lui. faisant halte dans le corridor pour savourer son triomphe. Il s'adosse à la porte et sourit. On peut lire en intertitre « Adieu Hector, ravi de t'avoir connu ». Chase sort. Dès qu'il est hors du champ, la caméra fixe la porte pendant une seconde ou deux, puis très lentement s'approche du trou de serrure. C'est un très beau plan, plein de mystère et d'attente. L'ouverture s'agrandit, occupant une part de plus en plus importante de l'écran, et nous permet d'apercevoir l'intérieur du bureau d'Hector. Un instant après, nous nous retrouvons dans ce bureau et, parce que nous nous attendons à le trouver vide, nous ne sommes pas du tout préparés à ce que la caméra nous révèle. Nous voyons Hector écroulé sur son bureau. Bien qu'encore inconscient, il est de nouveau visible et, tandis que nous nous efforçons d'absorber ce revirement soudain et miraculeux, nous ne pouvons en conclure qu'une chose. Les effets de la potion doivent s'être dissipés. Nous venons d'assister à la disparition d'Hector et si à présent nous le voyons, c'est que le breuvage était moins puissant que nous ne l'avions cru. Hector semble se réveiller. Rassuré par ce signe de vie, nous nous sentons revenus sur la terre ferme. Nous supposons que l'ordre s'est rétabli dans l'univers et qu'Hector va maintenant entreprendre de se venger de Chase et de révéler sa scélératesse. Pendant quelques 20 secondes, il exécute l'un de ses numéros comiques les plus piquants et les plus caustiques. Tel un homme qui tente de se débarrasser d'une gueule de bois, il se lève, tout vaseux et désorienté, et commence à tituber d'un bout à l'autre de la pièce. Nous rions. Nous croyons ce que nous disent nos yeux et, confiant dans le retour d'Hector à son état normal, nous pouvons nous amuser de ce spectacle de genoux flageolants et d'effondrements éméchés. Alors Hector se dirige vers le miroir accroché au mur et tout change à nouveau. Il veut se regarder, il veut se recoiffer et réajuster sa cravate, mais lorsqu'il scrute l'ovale lisse et brillant de la glace, son visage ne s'y trouve pas. Il n'a pas de reflet. Il se tâte pour s'assurer qu'il est réel, pour confirmer que son corps est palpable, mais quand il reporte les yeux vers le miroir, il ne voit toujours pas. Hector est perplexe, mais il ne panique pas. C'est peut-être le miroir qui a un défaut. Il sort dans le couloir, une secrétaire passe, les bras chargés d'une liasse de papier. Hector lui sourit et la salue d'un geste amical, mais elle ne paraît pas le remarquer. Hector hausse les épaules. À cet instant, deux jeunes employés arrivent en sens opposé. Hector leur fait la grimace. Il gronde, il tire la langue. L'un des employés dessine du doigt la porte du bureau d'Hector. « Le patron est arrivé ? » demande-t-il. « Je ne sais pas, » répond l'autre. « Je ne l'ai pas vu. » Au moment où il prononce ces paroles, Hector se trouve bien entendu juste devant lui, à moins de 20 cm de son visage. La scène suivante se passe dans le salon de la maison d'Hector. Son épouse marche de long en large et tour à tour se mord les mains et pleure dans un mouchoir. Il n'y a aucun doute qu'elle a déjà appris la nouvelle de la disparition d'Hector. Arrive Chase, l'ignoble C. Lester Chase, auteur du complot diabolique destiné à dépouiller Hector de son empire de limonade. Prétendant consoler l'infortuné, il lui tapote l'épaule et hoche la tête avec un désespoir fin. Il extrait de sa poche intérieure la lettre mystérieuse et la donne à la jeune femme en expliquant qu'il l'a trouvée le matin sur le bureau d'Hector. On voit sur l'écran un très gros plan de la lettre. « Ma bien-aimée, lit-on, je te supplie de me pardonner. Le toubib dit que je suis atteint d'un mal incurable et que je n'ai plus que 2 mois à vivre. Pour t'épargner cette agonie, j'ai décidé d'en finir maintenant. Ne t'en fais pas pour nos affaires. Avec Chase, la société est en de bonnes mains. Je t'aimerai toujours, Hector. » L'effet de ces mensonges et tromperies ne se fait pas attendre. Dès le plan suivant, on voit la lettre glisser des doigts de l'épouse et volter jusqu'au sol. Tout cela est trop pour elle. Son univers est bouleversé. Tout ce qu'il contenait est brisé. En moins d'une seconde, elle s'évanouit. La caméra suit sa chute, et puis l'image de son corps étendu par terre, inerte, se fond en un plan général. Hector, sorti de son bureau, erre dans les rues, en essayant de se faire à l'idée de ce qui vient de lui arriver d'étrange et de terrible. Afin de vérifier que tout espoir est réellement perdu, il s'arrête à un carrefour, en pleine foule, et se déshabille, ne gardant que ses sous-vêtements. Il esquisse quelques pas de danse, marche sur ses mains, montre ses fesses aux automobilistes, et puis, comme personne ne lui prête la moindre attention, il se rhabille tristement et s'en va d'un pas traînant. Dès lors, Hector paraît résigné à son sort. Il s'efforce moins de lutter contre sa situation que de la comprendre, et au lieu de chercher un moyen de se rendre à nouveau visible, en affrontant Chase par exemple, ou en se mettant en quête d'un antidote capable d'annuler les effets de la potion, il se lance dans une série d'expériences folles et impulsives, une investigation de ce qu'il est et de ce qu'il est devenu. Subitement, d'un geste de la main soudain et rapide comme l'éclair, il fait tomber le chapeau d'un passant. « Ah, c'est comme ça maintenant, semble-t-il se dire. Un homme peut être invisible à tous ceux qui l'entourent, mais son corps peut encore agir sur la réalité. » Un autre piéton s'approche. Hector avance le pied et le fait trébucher. Oui, son hypothèse est sûrement juste, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas poursuivre la recherche. S'échauffant à sa tâche, il soulève l'ourlet de la robe d'une femme pour examiner ses jambes. Il embrasse une autre passante sur la joue, puis une troisième sur la bouche. Il barre l'inscription d'un panneau stop, et un instant plus tard, une moto s'écrase contre un trolleybus. Il se glisse derrière deux hommes et, en assénant à chacun une tape sur l'épaule et un coup de pied dans les tibias, il déclenche une bagarre. Ces facéties ont quelque chose de cruel et d'infantile, mais elles font aussi plaisir à voir et chacune ajoute un élément à l'édifice croissant d'épreuves. Alors, ayant ramassé une balle de baseball qui roulait à l'aventure vers lui sur le trottoir, Hector fait sa deuxième découverte importante. Lorsqu'un homme invisible saisit un objet, celui-ci devient lui aussi invisible. Il ne flotte pas en l'air. Il est aspiré dans le vide, dans ce même néant qui enferme l'homme. Et, dès l'instant où il est entré dans cette sphère fatidique, il disparaît. Le gamin qui a perdu la balle court vers l'endroit où il pense qu'elle doit avoir atterri. Les lois de la physique indiquent que la balle devrait se trouver là, mais elle n'y est pas. Le gamin n'y comprend rien. Voyant cela, Hector pose la balle par terre et s'en va. L'enfant baisse les yeux et, ça alors, la balle se retrouve là à ses pieds. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Le bref épisode s'achève par un gros plan de la mine ébahie du garçon. Hector tourne le coin et se met à marcher sur le boulevard voisin. Presque aussitôt, le voilà confronté à un spectacle répugnant, de quoi vous faire bouillir le sang. Un gros monsieur bien habillé est en train de voler un exemplaire du Morning Chronicle à un petit marchand de journaux aveugle. L'homme n'a pas de monnaie, et parce qu'il est pressé, trop impatient pour se donner la peine de changer un billet, il se contente de prendre un journal et de s'éloigner. Scandalisé, Hector lui court après, et quand l'homme s'arrête à un carrefour pour attendre que le feu passe au rouge, Hector lui fait les poches. C'est à la fois drôle et déconcertant. On ne plaint pas la victime le moindre du monde. On ne plaint pas la victime le moins du monde, mais on est stupéfait de l'allégresse avec laquelle Hector s'est institué justicier. Même quand il revient au kiosque et remet l'argent au petit aveugle, on n'est pas tout à fait rassénéré. Dans les premiers instants après le vol, on a pu croire qu'Hector allait garder l'argent pour lui, et pendant ce bref et sombre intervalle, on comprend qu'il n'a pas volé le portefeuille du gros monsieur dans le but de réparer une injustice, mais simplement parce qu'il savait pouvoir le faire impunément. Sa générosité n'est guère qu'un effet secondaire. Tout est devenu possible pour lui désormais. Il n'a plus à obéir aux règles. Il peut faire le bien s'il en a envie, mais il peut aussi faire le mal et, en cette conjecture, nous n'avons aucune idée de la décision qu'il va prendre. Dans la maison d'Hector, son épouse a pris le lit. Au siège de la société, Chase ouvre un coffre-fort et en sort un gros paquet d'actions. Il s'assied à son bureau et entreprend de les compter. Pendant ce temps, Hector est sur le point de commettre son premier délit majeur. Il entre dans une bijouterie et devant une demi-douzaine de témoins aveugles, notre héros enténébré et effacé débarrasse une vitrine de son contenu et se remplit calmement les poches de montres, de colliers et de bagues par poignée. Il a l'air à la fois de s'amuser et de savoir ce qu'il fait, et il accomplit son forfait avec un très perceptible petit sourire aux commissures des lèvres. Son acte paraît relever à la fois du sang-froid et du caprice, et si nous en croyons nos yeux et l'évidence, nous ne pouvons qu'en conclure qu'Hector a mal tourné. Il sort de la boutique. Aussitôt, inexplicablement, il se dirige droit vers une poubelle plantée au bord du trottoir. Plongeant le bras dans les ordures, il en sort un sac en papier. Il est manifeste que c'est lui qui l'a mis là-dedans, mais bien que le sac soit rempli de quelque chose, nous ne savons pas de quoi. Quand Hector revient devant la boutique, ouvre le sac et se met à répandre sur le trottoir une substance poudreuse, nous sommes tout à fait confondus. Ce pourrait être de la terre. Ce pourrait être de la cendre. Ce pourrait être de la poudre à canon. mais quoi que ce soit, il paraît incompréhensible qu'Hector le répande par terre. En quelques instants, une mince ligne sombre s'étend du seuil de la bijouterie au bord du trottoir. Ayant couvert toute la largeur de celui-ci, Hector s'avance à présent dans la rue. En évitant les voitures, en esquivant les trolleybus avec des bonds qui lui font alternativement frôler le danger et lui échapper, il continue à vider son sac au travers de la chaussée. Et il a de plus en plus l'air d'un fermier fou en train d'essayer d'ensemencer un sillon. La traînée s'étend à présent d'un bord à l'autre de l'avenue. Comme Hector pose le pied sur le trottoir d'en face et continue à tirer sa ligne, nous comprenons soudain, il trace une piste. Nous ne savons toujours pas où elle conduit, mais quand il ouvre la porte de l'immeuble devant lequel il est arrivé et disparaît à l'intérieur, nous nous doutons qu'on va encore se jouer de nous. La porte se referme derrière lui et l'angle change tout à coup. Nous voyons un plan général de l'immeuble dans lequel Hector vient de pénétrer, le siège de la Fizzy Pop Beverage Corporation. Après cela, l'action s'accélère. Dans une rafale de brèves scènes narratives, le gérant de la bijouterie s'aperçoit qu'il a été cambriolé, se rue sur le trottoir et fait signe à un agent de police, auquel, dans la panique et avec des gestes précipités, il explique ce qui s'est passé. L'agent baisse les yeux, remarque la ligne sombre sur le trottoir et la suit des yeux jusqu'à l'immeuble Fizzy Pop de l'autre côté de la rue. « Ça ressemble à un indice, dit-il. Voyons où ça mène, renchérit le gérant. » Et tous deux s'élancent vers l'immeuble. La caméra revient sur Hector. Il s'avance à présent dans un corridor où il achève soigneusement de fignoler sa piste. Il arrive à la porte d'un bureau. Et tandis qu'il vide le reste de la poudre sur la moitié extérieure du seuil, la caméra nous fait voir ce qui est écrit sur cette porte. « T. Lester Chase, vice-président ». À cet instant, alors qu'Hector est encore en position accroupie, la porte s'ouvre à la volée et Chase, en personne, apparaît. Hector réussit à reculer d'un bond à la dernière minute avant que Chase ne trébuche sur lui. Et puis, pendant que le battant se referme, il se glisse par l'ouverture et entre dans le bureau en marchant comme un canard. Alors même que le mélodrame va atteindre son point culminant, Hector continue à accumuler les gags. Seul dans la pièce, il voit les actions étalées sur le bureau de Chase. Il les ramasse, égalise les bords de la liasse avec un geste méticuleux et les glisse dans sa veste. Et puis, en une succession de mouvements rapides et heurtés, il plonge les mains dans ses poches et retire les bijoux et empile sur le buvard de Chase une montagne d'objets volés. À la dernière bague qu'il ajoute à la collection, Chase revient en se frottant les mains, l'air immodérément satisfait de lui-même. Hector fait un pas en arrière, sa besogne est accomplie, il ne lui reste plus qu'à regarder son ennemi subir ce qui lui arrive. Cela se passe dans un tourbillon d'étonnement et de méprise, de justice rendue et de justice trahie. Dans un premier temps, distrait par les bijoux, Chase ne s'aperçoit pas de la disparition des actions. Il perd du temps, et quand enfin il enfonce la main sous la pile étincelante et constate qu'elles ne sont plus là, il est trop tard. La porte s'ouvre brusquement. L'agent de police et le gérant de la bijouterie entrent en trombe. Les bijoux sont identifiés, l'enquête est résolue et le voleur est arrêté. Peu importe l'innocence de Chase, la piste menait à sa porte et ils l'ont surpris la main dans le sac. Il proteste, bien entendu, tente de s'échapper par la fenêtre, se met à lancer sur ses adversaires des bouteilles de Fizzy Pop. Mais après quelques scènes débridées où interviennent une matraque et une baïonnette, on parvient à le maîtriser. Hector assiste à tout cela avec une sombre insouciance. Même quand on emmène Chase, les menottes au poignet, il ne se réjouit pas de sa victoire. Son plan a fonctionné à la perfection, mais en quoi cela lui profite-t-il? La fin du jour est proche et il est toujours invisible. Il ressort et recommence à marcher dans les rues. Les boulevards du centre-ville sont déserts et Hector semble la seule personne restant encore dans le quartier. Qu'est-il arrivé aux foules et à l'agitation qui l'entourait auparavant? Où sont les voitures et les trolleybus, les masses de gens encombrant les trottoirs? Pendant un moment, nous nous demandons si le maléfice n'a pas été inversé. Peut-être qu'Hector est à nouveau visible, nous disons-nous, et que tout le reste a disparu. Et puis tout à coup, un camion passe à grande vitesse et roule dans une flaque. L'eau gicle de la chaussée aspergeant tout alentour. Hector est trempé, mais quand la caméra se tourne vers lui pour nous montrer les dégâts, son costume est immaculé. Ce devrait être un instant comique, mais ça ne l'est pas, et dans la mesure où Hector délibérément ne le rend pas comique, un long coup d'œil dolant à son costume, l'expression déçue de ses yeux quand il constate que la boue ne l'a pas éclaboussé, cette simple astuce modifie l'humeur du film. La nuit tombe et nous le voyons retourner chez lui. Il entre, monte à l'étage et pénètre dans la chambre de ses enfants. La petite fille et le petit garçon dorment chacun dans son lit. Il s'assied à côté de la fillette, examine un moment son visage et puis tend la main comme pour lui caresser les cheveux. À l'instant où il va la toucher, il s'arrête néanmoins en se rendant compte que sa main risque de la réveiller et que si elle s'éveillait dans la pénombre et ne voyait personne, elle aurait peur. C'est une séquence émouvante et Hector la joue avec retenue et simplicité. Il a perdu le droit de toucher sa propre fille. Et en le voyant hésiter puis finalement retirer sa main, nous ressentons toute l'intensité de la malédiction qui l'afflige. Par ce simple petit geste, la main suspendue en l'air, la paume à quelques centimètres à peine de la tête de l'enfant, nous comprenons qu'Hector a été réduit à rien. Tel un fantôme, il se lève et sort de la chambre. Il fait quelques pas dans le couloir, ouvre une porte et entre dans une chambre. C'est la sienne. Et voilà son épouse, sa bien-aimée, endormie dans leur lit. Hector s'arrête. Elle est agitée, elle se tourne d'un côté et de l'autre en repoussant ses couvertures à coups de pied, sous l'emprise de quelques rêves terrifiants. Hector s'approche du lit et arrange délicatement les couvertures, tapote les oreillers et éteint la lampe de chevet. Les mouvements convulsifs de la jeune femme se calment et elle paraît bientôt plongée dans un sommeil profond et paisible. Hector recule, lui envoie un petit baiser du bout des doigts et puis s'installe dans un fauteuil au pied du lit. Il semble avoir l'intention d'y passer la nuit à veiller. Il semble avoir l'intention d'y passer la nuit à veiller sur elle, tel un esprit bienveillant. Même s'il ne peut ni la toucher ni lui parler, il peut la protéger et se nourrir de sa présence. Mais les hommes invisibles ne sont pas inaccessibles à l'épuisement. Ils ont des corps comme tout le monde et, comme tout le monde, ils doivent dormir. Les paupières d'Hector s'alourdissent. Elles papillotent et tombent, elles se ferment et se rouvrent, et bien qu'ils se réveillent une ou deux fois d'un sursaut, la bataille est manifestement perdue d'avance. Au bout d'un moment, ils succombent. L'écran devient noir. Quand l'image revient, c'est le matin. Et la lumière du jour transperce les rideaux. On voit l'épouse d'Hector encore endormie dans son lit. Et puis on voit Hector endormi dans le fauteuil. Son corps est contorsionné dans une posture impossible, un imbroglio comique de membres gauchis et d'articulations faussées. Et parce que nous ne sommes pas préparés à la vision de cet homme bretzel assoupi, nous rions. Et avec ce rire, l'humeur du film change une fois de plus. La bien-aimée s'éveille la première, et dès l'instant où elle ouvre les yeux et s'assied dans son lit, son visage nous dit tout, passant rapidement de la joie à l'incrédulité, puis à un optimisme prudent. Elle saute du lit et se précipite vers Hector. Elle touche son visage, renversé en arrière par-dessus un bras du fauteuil. Et le corps d'Hector, saisi d'un spasme de choc à haute tension, saute en l'air dans une déflagration de bras et de jambes qui finit par le ramener en position assise. Il ouvre alors les yeux. Involontairement, oubliant apparemment qu'il est en principe invisible, il sourit à sa femme. Ils s'embrassent, mais à l'instant où leurs lèvres se touchent, il a, confus, un mouvement de recul. Se trouve-t-il vraiment là? La malédiction est-elle levée? Ou bien n'est-ce qu'un rêve? Il se tâte le visage, promène ses mains sur son torse, puis regarde sa femme dans les yeux. « Tu me vois ?» demande-t-il. « Bien sûr, je te vois, » répond-elle. Et les larmes aux yeux, elle se penche pour l'embrasser à nouveau. Pourtant, Hector n'est pas convaincu. Il quitte son fauteuil et s'approche d'un miroir fixé au mur. La preuve viendra du miroir. S'il peut y voir son reflet, il saura que le cauchemar a pris fin. Qu'il va s'y voir, on le sait d'avance. Mais ce que cet instant a de merveilleux, c'est la lenteur de sa réaction. Pendant une seconde ou deux, l'expression de son visage reste la même. Et face à l'homme qui, sur le mur, le fixe, les yeux dans les yeux, on dirait qu'il contemple un inconnu, qu'il rencontre le visage d'un homme qu'il n'a jamais vu. Et puis, tandis que la caméra se rapproche, Hector commence à sourire. Arrivant sur les talons de cette glaçante inexpressivité, ce sourire suggère davantage que la simple redécouverte de soi. Ce n'est plus l'ancien Hector qu'Hector regarde. Il est désormais quelqu'un d'autre et, quelle que puisse être sa ressemblance avec celui qu'il était avant, il a été réinventé, retourné et remis au monde, un homme nouveau. Le sourire s'épanouit, devient plus radieux et plus satisfait du visage découvert dans le miroir. Un cercle se referme autour de celui-ci et, bientôt, Nous ne voyons plus que cette bouche souriante, cette bouche et la moustache qui la surmonte. La moustache se tortille pendant quelques secondes et puis le cercle rétrécit, rétrécit encore. Quand finalement il se ferme, c'est la fin du film. C'est l'émission Esperluette sur JetFM. Esperluette vous propose cette semaine deux lectures, deux fragments de deux ouvrages de Paul Auster. Il a été largement célébré dans les médias, la disparition de ce... Elle a été largement commentée dans les médias, la disparition de ce grand auteur américain, mort tout récemment à 77 ans d'un cancer fulgurant. Paul Auster est un des écrivains que j'ai beaucoup lu depuis, on va dire, une trentaine d'années, peut-être un peu plus, depuis la fin des années 80. Et parmi ses ouvrages nombreux, il y a à chaque fois des thèmes qui reviennent, la disparition, certes, le jeu sur les identités, les méta-références et les mises en abîme, l'écriture dans l'écriture, ou le cinéma, ou d'autres formes artistiques. Je vous propose pour cette émission deux fragments de deux des livres qui m'ont profondément marqué de Paul Auster et que j'aimais à citer assez régulièrement quand on me demandait par lequel il faudrait commencer. Et j'en avais, mine de rien, des souvenirs un peu diffus. Il est bon de les relire quelques 20 ou 30 ans plus tard. On commence donc avec un extrait de Mister Vertigo et tout simplement l'ouverture du livre, qui est relativement magistrale car tout de suite... elle vous emporte. C'est l'émission Esperluette, deux lectures d'extraits d'ouvrages de Paul Auster pour rendre un hommage à cet écrivain américain qui a été constitutif d'une certaine culture pour ma part. Après cet extrait de Mister Vertigo, voici le livre des illusions. C'est l'émission Esperluette sur JetFM qui se referme. C'était deux lectures, deux extraits de livres de Paul Auster, Mister Vertigo tout d'abord, puis le livre des illusions, dans les deux cas brillamment traduit par Christine Leboeuf aux éditions Actes Sud. À 20h, c'est l'émission La bande-son de Jérôme Romain, Ne quittez pas l'écoute. Il vous proposera encore, à n'en pas douter, un très beau programme autour des musiques de films. Esperluette revient la semaine prochaine, à peu près à la même heure, vers 18h, après le Sonolab.